À l'écoute de Radio France Internationale, il est 5h30, tout pile ici à Paris.
Vincent Dublange.
Bonjour et bienvenue, c'est Afrique Matin, une demi-heure d'infos largement consacrée à l'actualité du continent. On débute avec le journal et à la une, la victoire d'Abdelmajid Tebboune à la présidentielle algérienne de samedi. Près de 95% des suffrages exprimés selon les chiffres officiels publiés hier, mais qui suscitent déjà des critiques. Le taux de participation officiel définitif n'est pas affiché, mais en faisant quelques calculs, on se rend compte qu'il tourne autour des 25%. Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, l'ensemble de la parenthèse festive et sportive de Paris 2024, finalement, s'est fermé hier soir. Place à Los Angeles dans 4 ans. On va dresser le bilan avec le président du comité paralympique nigérien dans cette édition. Et puis dans le journal de 6h tout à l'heure, on vous fera vivre la cérémonie depuis le parvis de l'hôtel de ville de la capitale française. Également à la une de ce journal, de l'opéra fait par des jeunes défavorisés à Touléar. Nous sommes là au sud de Madagascar. Et puis cette polémique que l'on va vous raconter autour de la ministre sud-africaine de la justice. Et d'abord, donc, Abdelmajid Tebboune est réélu pour 5 ans en Algérie. Les résultats officiels, même si encore provisoires, ont été annoncés hier en fin de journée par l'instance électorale. 94,6% des voix pour le président sortant. Ses deux adversaires se partagent le reste. L'islamo-conservateur Abdelali Hassani récolte 3,2% des suffrages exprimés. Youssef Aouchiche du Front des Forces Socialistes obtient, lui, 2,2%. Toutes les données ne sont pas connues. Le taux définitif de participation ou encore le nombre des bulletins blancs ou nuls. Il y a donc des critiques. RFI Alger, Faisal Metaoui.
Abdelmajid Tebboune va poursuivre la direction de l'Algérie pendant 5 ans. Ce deuxième mandat sera économique, assure ses partisans. Tebboune a promis d'augmenter le PIB et le volume des investissements dans le pays. Ses deux concurrents, qui ont beaucoup parlé des questions économiques durant la campagne électorale, n'ont pas caché leur colère après l'annonce des résultats officiels du vote. Ahmed Sadok, directeur de campagne du candidat islamiste du mouvement de la société pour la paix MSP, a contesté les chiffres avancés par l'autorité nationale indépendante des élections ANI, une autorité critiquée pour ne pas avoir annoncé le taux final de participation au vote et le nombre des bulletins nuls et des bulletins blancs. Jamel Baloul, directeur de campagne du candidat du Front des Forces Socialistes Youssef Aouchiche, a lui aussi évoqué des pressions qui auraient été exercées sur les représentants du candidat dans les bureaux de vote. Des représentants qui, selon lui, n'ont pas pu obtenir les procès-verbaux du dépouillement des bulletins dans certains bureaux alors que la loi l'exige. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
Autre voix critique qui s'exprime ce matin, celle de Zoubida Assoul, avocate de détenus pendant le mouvement de protestation du Irak. Elle a tenté de se présenter, mais elle a été recalée. Pour la présidente du parti d'opposition, l'Union pour le Changement et le Progrès, le président Abdelmajid Tebboune n'a pas de légitimité populaire.
Si on regarde encore une fois le taux de participation, je peux déjà vous dire que le fossé est de plus en plus énorme entre les citoyens et le pouvoir en place. La légitimité, c'est quoi? C'est l'adhésion de, au moins d'une grande majorité du peuple autour d'un projet, que ce soit d'un président sortant ou d'un autre candidat. Or, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez que le corps électoral est composé de plus de 24 millions d'électeurs et d'électrices et qu'au finish, il n'y a que 5,5 millions à peu près de votants. Donc, je ne pense pas qu'un président dont le corps électoral ne dépasse pas les 23%, on puisse parler de légitimité populaire.
Des propos recueillis par Alexandra Branjon. Le président français Emmanuel Macron a adressé dès hier à son homologue algérien ses plus vives félicitations. Il souligne, je cite, que la France est particulièrement attachée à la relation exceptionnelle la liant à l'Algérie. Ils nous ont dit au revoir hier, les chanteurs maliens. Amadou et Mariam ont accompagné l'extinction de la vasque et de la flamme paralympique. Entourés d'un quatuor d'instruments à cordes au jardin des Tuileries en plein cœur de Paris, les deux non-voyants, couple formé il y a quasiment un demi-siècle à l'Institut des Jeunes Aveugles de Bamako, a donc mis un point final à 6 semaines de compétition. Jeux olympiques, Jeux paralympiques, en reprenant du Gainsbourg. Vous avez reconnu, je suis venu te dire que je m'en vais. Rendez-vous donc à Los Angeles en 2028. Côté Afrique, ce bilan des Jeux paralympiques 42 pays engagés, on le rappelle, 10 qui ont eu au moins une médaille. Au final, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, la Namibie, le Kenya et Maurice qui obtient d'ailleurs la première médaille paralympique de son histoire grâce à Giovanni Philippe dans la catégorie déficience intellectuelle et relationnelle, qui termine en bronze sur 400 mètres. Durant ces Jeux, le Niger était représenté par un seul athlète en para-taekwondo, pas de médaille. Mais ces Jeux furent une opportunité assez exceptionnelle pour Haruna Ousmane. Il préside le comité paralympique du Niger.
Salim, un prénom d'emprunt, digère encore avec amertume ce changement de politique.
Mon plan, mon projet d'immigration pour le Canada.
Alors vous aurez reconnu que c'était la voix de Magali Lagrange. Nous avons donc le témoignage d'Haruna Ousmane, qui est le président du comité paralympique du Niger.
Il y a 168 délégations présentes ici et nous avons fait le partage d'expériences et d'informations avec un bon nombre d'athlètes, non seulement de l'Europe, de l'Amérique, mais aussi entre nous, Africains également. À travers ces contacts, je peux vous assurer que nous allons mobiliser des partenaires pour vraiment aider à propulser, à galvaniser nos athlètes de notre parasport au Niger. Ce qui manque, c'est le problème d'insuffisance de ressources humaines, la rareté ou l'inexistence même, le manque de matériel et équipement spécialisé, et ensuite l'insuffisance des moyens financiers. Nous, parfois, nous nous contentons des équipements locaux, alors que ces équipements locaux ne peuvent pas être utilisés dans les compétitions internationales.
Un propos recueilli par Kaourou Magassa. Loin de la ferveur et de l'esprit olympique et paralympique, les belligérants du Soudan continuent de se faire la guerre. On le disait hier, les combats reprennent de la vigueur dans la banlieue nord de Khartoum, entre l'armée régulière et les paramilitaires FSR. Hier, des tirs imputés par le réseau des médecins soudanais aux paramilitaires du général Hemeti ont fait 21 morts, au moins dans l'état de Sennar, c'est dans le sud-est du Soudan. Il y a 70 blessés, ils s'étaient tous rassemblés sur un marché de la ville de Sennar. En Tanzanie, l'effroi après la mort violente d'un membre du parti d'opposition Chadema, Ali Mohamed Kibao, membre du secrétariat national du parti, a été sévèrement battu et aspergé à l'acide au visage. C'est ce que dit le président de Chadema, Freeman Mbowe. Les vies des responsables de Chadema sont en danger, dit-il. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan parle de grande tristesse. Elle présente ses condoléances à la famille, aux amis et aux responsables du parti Chadema. On en a parlé sur RFI il y a une semaine. Le 28 août, le Canada a mis fin, avec effet média, à sa politique permettant à des étrangers munis d'un visa visiteur de demander, une fois sur le sol canadien, un permis de travail temporaire. En 2020, lorsqu'elle a été prise, cette mesure devait servir à aider les voyageurs bloqués à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, comme ceux dont le visa de travail était arrivé à expiration mais qui ne pouvaient pas quitter le Canada. Quelles conséquences de cette décision donc pour les candidats subsahariens à l'expatriation légale vers le Canada? La fin de cette politique en déçoit plus d'un. Le Canada étant devenu ces dernières années l'une des premières destinations visées par les étudiants ou les travailleurs africains souhaitant s'expatrier. Enquête signée Amélie Tulay.
Salim, un prénom d'emprunt, digère encore avec amertume ce changement de politique.
Mon plan, mon projet d'immigration pour le Canada s'est littéralement effondré comme un château de cartes.
Chauffeur à Douala au Cameroun, ce père de 4 enfants est arrivé en avril au Canada avec un visa visiteur, se fixant 6 mois pour trouver un travail.
Il dit, c'était la possibilité que j'avais de m'installer, de faire venir ma famille. Le visa qui prend moins de temps à l'obtenir, c'est un visa touristique. Tu travailles, par la suite, tu peux appliquer pour demander une résidence permanente.
Ce plan a volé en éclats. Salim va devoir rentrer au Cameroun. Désespoir déçu et des questions, Christian Yopa en reçoit beaucoup depuis une semaine. Le fondateur de Vision Canada Immigration reconnaît que le programme a permis à des hôpitaux canadiens de recruter ces dernières années une main-d'œuvre peu qualifiée, mais ce programme n'était pas destiné à durer.
Dans les faits, en réalité, j'aimerais rappeler à tout le monde que c'était l'exception en fait, de pouvoir transformer un visa visiteur en visa de travail. Ce n'était pas la règle. Aucun autre pays au monde ne le fait. Il y avait déjà beaucoup de moyens de venir au Canada et ça existe toujours.
Des procédures plus longues et à l'issue incertaine. Mais pour Christian Yopa, le Canada faisant face à une pénurie de travailleurs dans des secteurs comme le bâtiment restera une terre d'immigration.
En Afrique du Sud, la ministre de la Justice Thembi Simelane sur la sellette, elle a dû s'expliquer en fin de semaine devant le Parlement suite à des accusations de corruption. Elle aurait touché un prêt en 2016, depuis remboursé, afin d'ouvrir un café alors qu'elle était à l'époque maire de la ville de Polokwane. Le problème, c'est que cet argent provenait d'une affaire affaire frauduleuse impliquant une banque sud-africaine. Claire Bargelès revient sur la polémique qui enfle.
Cet argent, qui représente plus d'un demi-million de rentes, soit environ 25 000 euros, a été prêté à l'actuel ministre par un homme qui est aujourd'hui poursuivi, avec d'autres, pour avoir pillé la VBS Mutual Bank. La faillite de cette banque mutualiste avait vu de nombreux épargnants, en majorité noirs et de classe modeste, perdre leurs économies dans ce scandale surnommé le grand casse bancaire. Or, c'est sous le mandat de Thembi Simelane, alors maire de Polokwane, que la municipalité avait investi des millions de rentes dans cette même banque, ce qui laisse planer des soupçons autour de ce prêt qui pourrait être considéré comme une faveur en retour. Selon des révélations de la presse locale, la police a effectué une perquisition la semaine dernière dans les bureaux de son ancien assistant et désormais se pose la question du maintien de la ministre à son poste. Lors de son audience au Parlement, plusieurs députés de partis autres que l'ANC se sont inquiétés d'un possible conflit d'intérêts et de la capacité de Thembi Simelane de traiter des questions judiciaires au sein du gouvernement. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
C'est une aventure artistique hors du commun qui se joue dans le grand sud malgache depuis des mois à Toulear, au sud-ouest de la grande île. Près de 300 jeunes issus de quartiers défavorisés ont participé à l'écriture et à la mise en scène d'un opéra, une création unique réalisée en collaboration entre une ONG locale, Tuléaroise, Bel Avenir, et l'association espagnole Opéra Sans Frontières. L'œuvre est intitulée « Le rêve de Nirine ». Il raconte le parcours d'une jeune femme bien décidée à vivre sa vocation plutôt qu'à subir son destin, un destin choisi par ses parents. Les premières représentations ont eu lieu ce week-end à l'Oratorio de Tuléar sous le regard d'un millier de spectateurs ébahis et de Sarah Teto.
Ils ont entre 7 et 23 ans. Tous sont là pour porter haut et fort le rêve de Nirine, une jeune fille qui désire étudier pour devenir garde forestière et défendre les ressources naturelles de Madagascar. Mais ses parents ont un autre plan, la marier avec son riche cousin trafiquant de bois précieux.
C'est un projet qui a été imaginé et créé vraiment sur mesure avec les jeunes pour répondre à la réalité des problématiques locales.
Laura Barrado est la coordinatrice artistique au sein d'Opéra Sans Frontières.
La plupart viennent de foyers modestes et en situation de vulnérabilité. Certains sont voués à la mendicité, même à la prostitution. Le projet d'Opéra leur apporte l'opportunité non seulement de faire une rencontre avec d'autres formes de gagner sa vie, mais aussi à utiliser l'art et le théâtre pour réfléchir et s'exprimer autrement.
Sur scène, donnant la réplique à des chanteurs lyriques professionnels, Georgina Noumenzanahar interprète superbement le personnage de Nirine.
Pour moi, c'est vraiment quelque chose de waouh, parce que c'est la toute première fois de ma vie que je chante un opéra. Avant, je ne faisais que du gospel, mais là, c'est du chant avec des amplitudes vocales très variées, du théâtre et une scénographie. C'est incroyable de vivre cette expérience avec mes camarades.
Une aventure qui ne fait que démarrer, une tournée nationale est prévue dès 2025. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Un mot de sport pour terminer les éliminatoires de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc dans quelques mois. On attend quelques matchs aujourd'hui. Éthiopie RDC notamment à 19h temps universel. Ouganda Congo aussi. Niger Ghana Burundi Sénégal. Et puis sachez que l'international de rugby sud-africain ex-capitaine des Springboks Siya Kolisi quitte officiellement le Racing 92 en France. Il ne sera resté qu'une saison. Journal des sports complet. Babacar Diarra dans une heure. Afrique Matin se poursuit, le second acte au Ghana dans quelques minutes. La récolte du Ghana, du cacao, devrait débuter dans les jours qui viennent, dans un contexte de crise alors que la dernière récolte était catastrophique. Les 22 plus grands producteurs de pétrole attendent un peu avant d'ouvrir les vannes dans l'espoir de gonfler les cours de l'or noir. Ça ne marche pas trop pour l'instant. Eux se mobilisent contre la vie chère, les prix exorbitants par rapport à la métropole. C'est à La Réunion que ça se passe et c'est à la une du journal de nos confrères de La Première dans 10 minutes. Mais on débute par le grand format de la rédaction Afrique. Ils sont l'un des symboles du continent africain, en tout cas, vu de l'étranger, de France par exemple. Même celles ou ceux qui ne connaissent pas l'Afrique ou qui ne la connaissent que de très très loin voient ce que sont les pagnes, ces tissus colorés qui se nouent autour d'une taille, rehaussent une coiffure, magnifient les grands comme les petits moments de la vie. Les pagnes, c'est un cliché dans la tête de beaucoup d'Occidentaux, mais c'est aussi une tradition réelle. Il y a le pagne du quotidien, il y a ceux des grandes occasions. RFI vous plonge dans l'univers du pagne tissé, trois pays. Trois grands formats que l'on débute au Sénégal ce matin avec Juliette Dubois.
Dans une petite maison du quartier de la Médina, Marem Sow vit avec sa mère Binta. Cette quinquagénaire pleine d'énergie ouvre les placards et sort des valises cachées sous des lits pour nous faire découvrir sa collection de pagnes tissés.
On peut aller voir les autres aussi.
Non, attends, il y a beaucoup de bagages là-bas, je vais aller voir.
Les précieuses étoffes sont enroulées avec soin et protégées du soleil qui peut abîmer les couleurs vives.
Ah, vous avez beaucoup de pagne ?
Oui, j'ai beaucoup de pagne. Moi, ça. Ça, c'est très joli. Ça, c'est maman qui l'a acheté ? C'est notre tradition.
Ces pagnes tissées et brillants aux motifs géométriques sont des trésors de famille. Certains ont été offerts pour les baptêmes de ses quatre enfants.
Si on a un baptême, on offre les pagnes là. Tout ça, on m'a offert ça. Le mari de ma fille, c'est sa maman qui m'a donné ça. Chaque personne me donne un pagne pour lui porter la bonne chance, la réussite. Ce sont des pagnes de chance.
D'autres sont encore neufs et seront offerts pour les naissances à venir dans la famille. Les bandes de tissu d'une vingtaine de centimètres seront alors assemblées pour faire un grand pagne.
Je l'ai acheté pour préparer pour mes petits-fils.
Cela, c'est pour les petits-fils.
Ouais. Qui n'ont pas encore né encore. Je me prépare à l'avance.
J'ai acheté ces tissus il y a longtemps. J'ai l'habitude d'en acheter quand j'ai de l'argent et de les garder, ou j'appelle un Ndiago pour qu'il m'en tisse un que je conserve.
Les pagnes réalisées par des Ndiago, des tisserands Mandjak installés dans le quartier de Fas, accompagnent toutes les célébrations. Ils sont aussi utilisés au moment du mariage ou encore au décès pour recouvrir le mort, comme l'explique Binta Ndoy, la mère de Marem qui a 87 ans.
Le reste des pagnes, je les garde. Je ne le souhaite pas, mais en cas de décès, cela va servir à couvrir le corps jusqu'au cimetière. Ensuite, on me ramènera le tissu que je conserverai.
Un beau pagne noir et orange est déjà destiné à un futur défunt. Ces traditions sont aussi une richesse qui se transmet. Les petits-enfants de Marem conserveront eux aussi les étoffes chez eux. Et certains des pagnes tissés qu'elle nous présente étaient déjà à la grand-mère de Marem.
On l'a distribué à ses enfants. La maman, lorsqu'elle est décédée, ces pagnes, on les donne à chaque enfant un pagne pour souvenir.
Chaque pagne que Marem range dans son armoire est une pièce et une histoire unique. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Un reportage à retrouver, bien sûr, sur notre appli de podcast RFI, Pure Radio.
Vincent Dublange.
Dans une minute, le dossier Afrique Éco au Ghana sur la récolte de cacao. Mais d'abord, les titres de l'actualité de ce lundi 9 septembre 2024, les Paralympiques. On le disait dans le journal, les Paralympiques de Paris, c'est terminé. Avec vos jeux grands ouverts, vous avez organisé les Jeux Paralympiques les plus spectaculaires de tous les temps. S'est enthousiasmé dans son discours hier soir le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons. Pour cette édition 2024, le comité d'organisation a vendu plus de 2 500 000 billets, approchant le record de Londres 2012, 2 700 000. Au tableau des médailles, la Chine et ses 220 médailles obtient de loin la première place, suivie par le Royaume-Uni et les États-Unis. La France réussit son pari d'être dans le top 8 avec la 8e place. Le premier pays du continent africain à apparaître dans le classement des médailles paralympiques, c'est l'Algérie avec 11 médailles. L'actualité au Proche-Orient. Au moins 7 personnes, dont 3 civils syriens, tués dimanche soir dans des frappes israéliennes. Elles ont visé des sites militaires dans le centre de la Syrie, dont un centre de recherche scientifique. C'est ce que dit l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui précise que des groupes pro-iraniens et des experts en développement d'armes sont présents sur ces sites. Dans la bande de Gaza, c'est aujourd'hui que débute la deuxième pause humanitaire pour la vaccination anti-polio dans le nord de l'enclave. Elle va durer jusqu'au 12 septembre. Et puis le candidat de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle de juillet, Edmundo González Urrutia, est arrivé dimanche en Espagne, qui va lui accorder l'asile. Comme promis, nous sommes au Ghana. Le lancement de la nouvelle campagne de cacao devrait être annoncé cette semaine. La dernière faisait pâle figure, baisse de 55% de la production. Épidémie, conséquence des changements du climat ou mine d'or artisanale qui grignote les terres. Les raisons sont multiples. La crise profonde dans l'un des deux géants du cacao avec la Côte d'Ivoire. Victor Cario est allé interroger des producteurs en pays Ashanti.
Comme chaque matin, Akwasi Mpafo fait le tour de son exploitation de 6 hectares qu'il gère seul dans la commune de Jouaben.
Cette terre s'appelle Aman Paman. J'y suis très heureux.
À 66 ans passés, dont 20 en tant que producteur de cacao, Akwasi Mpafo a aujourd'hui du mal à subvenir à ses besoins.
C'est plus compliqué de cultiver du cacao aujourd'hui. Le climat a changé. Les pluies ne sont plus les mêmes. Les jours de soleil non plus. Ça demande beaucoup plus d'attention.
Autre problème, le prix des produits de traitement et de désherbage qui augmente dans un Ghana en crise économique où l'inflation dépasse encore les 20%. Compliqué donc de lutter contre les maladies qui, à l'image du virus de l'œdème du cacaoyer, attaquent les cultures partout dans le pays. un constat partagé par son voisin Emmanuel Akweni, également producteur de cacao. Une cabosse infectée à la main.
Il y a des points noirs dessus, ça veut dire qu'elle a été attaquée par des insectes.
Emmanuel Akweni voit donc sa production baisser tous les ans. Et ce n'est pas la hausse du prix du sac fixé par le régulateur du cacao ghanéen, un peu plus de 2000 cédis les 64 kg pour cette saison, qui va réellement changer sa situation.
On veut plus, un sac à 3000, 3500 cédis. Avec le prix actuel, pour survivre, je suis obligé d'emprunter à la banque ou à mes proches.
Pourtant, ni lui ni Akwasi Ampafo ne comptent vendre leurs exploitations, seules terres qu'ils possèdent. Pas question par contre que leurs enfants se lancent à leur tour dans le cacao, un problème de transmission généralisé ici au Ghana et qui risque de mettre à mal les productions futures. C'est en tout cas ce que pense Richmond Frimpong, journaliste spécialisé en agriculture basé dans la ville de Kumasi.
Personne, aucun jeune surtout, ne souhaite se lancer dans la production de cacao. Déjà parce que la majorité des jeunes ne disposent pas de fonds pour obtenir une terre à cultiver. Ensuite, parce que le secteur du cacao ne promet pas de meilleures conditions de vie.
La solution, selon lui, des avantages fiscaux pour les produits de traitement et les engrais, investir dans la ruralité en construisant des routes et empêcher par la loi de couper des cacaoyers.
Quand vous allez dans la région orientale et même dans certaines parties de la région occidentale, certains producteurs de cacao ont cédé leurs terres à des investisseurs dans le caoutchouc parce qu'ils ont immédiatement besoin d'argent.
19 000 hectares, c'est la superficie de cacaoyer détruite par les mines d'or illégales en 2022. Un fléau difficile à endiguer, alors que le régulateur du cacao a annoncé espérer un rebond de la production pour la prochaine saison. Victor Cariou, de retour de Kumasi, RFI.
L'Afrique de l'Ouest, qui est la première région productrice du cacao dans le monde, la Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent près de 60% de la production totale. Les prix sont stables en ce moment après des mois de forte hausse que nos spécialistes matières premières vous ont chroniqué régulièrement ces derniers mois. Matières premières, justement, le monde est bien fait. Ce matin, Marie-Pierre Olfan vient nous parler d'une autre matière première dont on suit les soubresauts des cours mondiaux, c'est le pétrole. L'OPEP+, l'Alliance des grands pays producteurs, change de stratégie. Elle va attendre 2 mois de plus pour relancer sa production. L'objectif, c'est de tenter de faire monter un peu les prix en limitant le volume sur le marché. Sauf que la demande est si morose que même cette décision n'a pas bousculé les cours, Marie-Pierre.
L'OPEP Plus avait prévu de rouvrir ses robinets à partir d'octobre dans l'idée de remettre sur le marché progressivement d'ici un an les 2,2 millions de barils jour dont l'organisation se prive. Mais l'été est passé par là et la relance de la consommation portée par les vacances et ce qu'on appelle aux États-Unis la driving season n'a pas réussi à redresser les prix du brut. Le WTI référence du pétrole américain est passé sous la barre des 70 dollars et le Brent référence européenne de l'or noir a atteint son plus bas niveau depuis décembre. Une tendance qui a incité 8 des 22 membres du cartel à ne pas rouvrir donc les vannes aussitôt que prévu. La raison économique l'a donc emporté, mais n'a pas réussi pour l'instant à donner un coup de fouet au marché. Les prix n'avaient d'ailleurs pas non plus été impactés ces derniers jours par l'annonce de la baisse massive des stocks américains. Peut-être parce qu'elle était moins forte que prévu ou parce que la baisse des volumes d'essence livrés au marché américain là, à ce moment-là, emporté dans les esprits. Les indices d'une demande qui fléchit aux États-Unis font écho à une consommation morose, en particulier en Chine, moteur principal de la croissance de la demande en pétrole. L'évolution de la consommation est si incertaine aujourd'hui que l'organisation se réserve déjà la possibilité de revoir son nouveau calendrier si nécessaire. Cette stratégie de l'OPEP+, focalisée sur une remontée des prix, interpelle cependant des observateurs. À force de retenir son pétrole, l'organisation court le risque de perdre des parts de marché face à d'autres pays qui, eux, ne sont pas membres du cartel. C'est le cas des États-Unis, du Brésil ou encore du Guyana.
Et Marie-Pierre Olfan. RFI, 6h54 à Mamoudzou. Nous sommes à Mayotte, où la prudence est recommandée en ce moment avec les fruits et légumes vendus en bord de route. À La Réunion, la mobilisation contre la vie chère s'amorce. C'est à la une de votre journal. Bonjour Caroline Marie.
Bonjour. À Mayotte, selon une étude récente, les fruits et légumes vendus sur le bord des routes présenteraient une teneur en pesticides très nettement au-dessus des seuils autorisés. Les autorités du 101e département invitent donc les consommateurs à la prudence. Fatima Bouanaridziki de Mayotte la première.
Ils sont en vente partout sur les bords des routes, salades, tomates, concombres, piments, des légumes que la population continue d'acheter malgré les risques sanitaires. Depuis le 1er juin, la préfecture recommande de ne pas acheter ni consommer ces produits non déclarés, ni contrôlés et bourrés de pesticides interdits en France. Le préfet François-Xavier Bieuville craint le pire.
Tout le monde a en tête la crise du chlordécone avec la culture de la banane dans les Antilles, qui a produit des effets, notamment sur des risques de cancer très importants, bien des années après.
Une crainte partagée par Dany Salim, l'agriculteur, s'interroge également sur les actions de l'État. Il dénonce du deux poids, deux mesures.
Nous, on est contrôlés en tant que professionnels reconnus. Mais le problème, c'est que les non-reconnus, c'est là où le terme que j'ai du mal à comprendre. Les non-reconnus, or, ils savent très bien les lieux des exploitations. Ils ont les satellites, il y a l'hélicoptère qui tourne. Ils voient très bien les parcelles exploitées.
Pourtant, les risques sanitaires sont bien réels. À partir du 1er novembre 2024, la CODAF va renforcer la lutte sur l'achat des fruits et légumes vendus au bord des routes de Mayotte.
Direction La Réunion, où ce dimanche matin, une mobilisation contre la vie chère s'est tenue devant un hypermarché du nord de l'île, après un premier rassemblement dans l'ouest jeudi dernier. Une mobilisation qui rejoint celle des Antilles-Guyane, où depuis le début du mois, des actions coup de poing, en particulier en Martinique, se sont multipliées pour cibler les acteurs locaux de la grande distribution et du transport maritime. Principale revendication, l'alignement des prix sur ceux de l'Hexagone. À La Réunion, le mouvement s'amorce avec une poignée de militants peu nombreux mais déterminés à agir, comme Mathieu Raffini, interrogé par Adjaya Waro de Réunion La Première.
Là, on est le début du mois, donc il y a aussi le stress, justement, il faut aller faire les courses, tout ça là. Donc, bon, il y en a deux, trois qui n'ont pas le temps, mais pour ceux pour qui on a le temps de discuter, on voit vraiment que la monnaie ne gagne plus en fin de compte, vraiment, avec la vie chère, parce que là, on fait trois courses, c'est bon, on a fini le mois, on est déjà à découvert. Enfin, à un moment, en même temps, c'est pas difficile quand on voit la réalité sociale de l'île, qu'on a tendance à oublier, où la majorité de la population aujourd'hui est sous le seuil de pauvreté réelle. Forcément, avec l'inflation qui continue d'augmenter mois après mois, à un moment, on s'en sort plus.
Et malgré tout, ce premier week-end de soldes à La Réunion fut un succès. 4 semaines en tout de soldes, c'est un peu long pour certains commerçants qui réalisent jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires annuel. Côté clients du Monde, déjà dans les magasins pour profiter des ventes nocturnes et des produits à moitié prix. Reportage dans les rues du centre-ville de Saint-Denis, Harry Amourani de Réunion La Première.
Bonne nouvelle pour Marie.
24,50 au lieu de 49 avec les 50%.
Très bien.
Son petit plaisir du jour, c'est un haut léopard.
Ici, je trouve toujours mon bonheur, même quand c'est pas en solde.
Même petit plaisir pour Charlotte, 81 ans, et toujours aussi alerte quand il s'agit de shopping.
Là, je cherche un haut. Hier, j'ai passé, c'était à 47, je dis c'est à 20, mais j'en profite.
Alors, il y a donc ceux qui sont déjà venus en repérage, en solo ou entre amis.
C'est plus agréable d'être accompagné avec des copines, faire du shopping.
Il n'y a pas que les clients qui ont le sourire, nous confie déjà cette vendeuse.
Pour un début de solde, ça marche très bien?
Ça va. Je dirais pas tout, mais ça va.
Une période qui reste cruciale. Shakil Omarji, vice-président de l'Union des commerçants dionysiens.
C'est un moment important puisque cela représente à peu près 15% à 20% du chiffre d'affaires annuel. Maintenant, on démarre très fort à moins 50%. Il y a quelques années, c'était moins 20. Mais on est obligé, dans un contexte d'inflation, de proposer des meilleurs prix, donc une remise plus importante pour donner du pouvoir d'achat aux clients.
Reste ce petit bémol, 4 semaines pour les soldes, c'est trop long. Certains commerçants préféreraient qu'elles ne durent que 3 semaines.
C'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Et bonne journée à vous, Caroline Marie. C'est la fin aussi de cette première édition d'Afrique Matin. Dans 1 minute 30, pour être très précis, RFI Matin débute. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Vincent Dublanche.
De quoi parle-t-on ce matin?
Des Jeux Paralympiques. Les Jeux, la période des Jeux à Paris est maintenant terminée. La fête est finie avec la fin des Jeux Paralympiques hier soir. Et cette fête au Stade de France, cérémonie de clôture dont on vous fera revivre les grands moments. On va tirer aussi le bilan sportif de tout ça. C'est dans RFI Matin jusqu'à 10h, heure de Paris.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Sénégal, pour mettre en œuvre les politiques de rupture promises durant la campagne, le président Bassirou Diomaye Faye a besoin d'une majorité au Parlement. Va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale dès ce jeudi? Son parti peut-il remporter les législatives anticipées?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
retrouver RFI sur WhatsApp.
Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité internationale sur votre application de messagerie et réagir aux informations. Pour vous abonner, rendez-vous sur l'application WhatsApp dans la rubrique Actu. Tapez RFI dans la barre de recherche, demandez à suivre notre chaîne et activez les notifications.
La chaîne WhatsApp de RFI, c'est à retrouver sur votre téléphone mobile.